Un excellent réveil qui débute avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et vous l'évoquiez à l'instant, Guillaume, l'aéroport d'Orly au sud de Paris rouvre effectivement ce matin. Premier vol en 3 mois. Seuls 10% des voyageurs seront accueillis dans un premier temps. Nous vous expliquerons pourquoi dans ce journal, ainsi que les inquiétudes que cela suscite.
Inquiétude aussi en Australie après la détection de 200 cas de Covid-19 en une semaine à Melbourne. Les soldats viennent prêter main forte aux soignants.
La Covid-19, vous l'évoquerez également dans la question du jour, Guillaume.
Eh bien oui, comment financer les futurs vaccins contre la maladie? On posera cette question à Pierre-Yves Geoffard, il est professeur à l'école d'économie de Paris et spécialiste des questions de santé.
Avant cela, dans ce journal, nous prendrons des nouvelles des Libanais qui subissent une crise économique et sociale sans précédent depuis des mois. Et puis nous nous intéresserons à la filière papier en France. La dernière papeterie a finalement été reprise, oui, mais par un Canadien. Reportage à suivre. Le premier vol a décollé il y a une grosse demi-heure. Premier vol au départ de l'aéroport d'Orly après plus de 3 mois d'interruption due à la crise sanitaire de la Covid-19. C'est la compagnie Transavia qui a, la première, transféré des voyageurs de Paris à Porto. Car pour le moment, seuls les vols dans l'Union européenne et les départements d'outre-mer sont assurés. C'est 10% de la capacité de l'aéroport, aéroport qui est, je le rappelle, le deuxième plus grand de France. Moins de monde donc et plus de contrôle à Kim Kasmi.
Avec la crise sanitaire, Aéroports de Paris et les compagnies aériennes ont dû s'adapter. Gestes barrières obligent, dès l'enregistrement des bagages, il y aura des marquages au sol pour respecter la distance entre les passagers dans les files d'attente, avec des vitres en plexiglas sous les comptoirs. Au niveau de l'embarquement dans les avions, pour que les voyageurs ne se croisent pas, on fera d'abord entrer ceux qui sont assis au fond de la cabine. Quant aux passagers qui arriveront de province ou de l'étranger, leur température sera prise automatiquement par des caméras thermiques. En cas de fièvre, ils pourront être directement auscultés par les services médicaux de l'aéroport, avec même la possibilité de faire les tests au coronavirus. Au niveau des compagnies, cette fois, si elles saluent la reprise, la prudence reste de mise, car tout l'enjeu sera leur taux de remplissage dans les prochaines semaines. En effet, pour être rentables, elles ont besoin que leurs avions soient remplis au moins à 80%. Autrement, elles voleront à perte. Vu que dans l'aérien, les coûts d'exploitation sont très importants, avec des marges comprises seulement entre 2 et 5%, auxquelles il faut ajouter une guerre des prix entre les compagnies, notamment avec les low-cost très présentes à Orly. Enfin, le marché n'est pas à l'abri d'une deuxième vague qui pourrait être cette fois fatale à de nombreuses compagnies aériennes.
Alors, le secteur aérien a-t-il du plomb dans l'aile? Question que nous poserons à notre invité Alexandre de Juniac, directeur général de l'Association internationale du transport aérien et ancien PDG d'Air France KLM, invité des matins à 7h45 tout à l'heure. Pendant ce temps, le nombre de patients en réanimation liés à la Covid-19 continue de baisser. Ils sont 651 malades actuellement à l'hôpital pour 21 morts ces dernières 24 heures. Principalement en Île-de-France, dans le Grand Est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Hauts-de-France. Un bilan qui est loin d'être le même sur le continent américain. Les contagions au nouveau coronavirus s'accélèrent encore au Brésil, au Mexique et aux États-Unis. D'ailleurs, le Texas a suspendu hier soir le déconfinement de l'État face à la propagation de la maladie qui touche de plus en plus de jeunes. Même inquiétude en Australie, notamment dans l'État du Victoria où se trouve la ville de Melbourne. Les autorités locales ont remis en place des restrictions et elles ont même fait appel à l'armée pour faire du porte-à-porte dans les quartiers les plus touchés par le virus. L'armée effectue également des tests à grande échelle sur la population, comme nous le raconte Grégory Pless.
Après le déconfinement, l'heure est au reconfinement dans l'état du Victoria, au sud-est de l'Australie. C'est en particulier dans la deuxième plus grande ville du pays, Melbourne, que des dizaines de nouveaux cas d'infection sont apparus ces derniers jours. Alors pour briser ce qui ressemble à une deuxième vague, les autorités locales ont annoncé le déploiement d'un millier de militaires. Leur mission, faire du porte-à-porte dans les quartiers les plus touchés et proposer des dépistages gratuits à l'ensemble de la population. Ils seront également chargés de faire respecter la quarantaine à ceux qui sont de retour de l'étranger et qui sont confinés dans des hôtels. Plusieurs agents de sécurité jusqu'ici chargés de cette mission ont eux-mêmes été contaminés au cours des derniers jours. On estime d'ailleurs qu'au moins la moitié des nouveaux cas dans le Victoria trouvent leur origine dans ces hôtels. Mais au-delà du Victoria, c'est en fait toute l'Australie qui doit prolonger sa période d'hibernation. Plusieurs États qui avaient fermé leurs frontières au reste du pays ont d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'ils repoussaient leur réouverture. Pendant ce temps-là, à Melbourne, on redouble d'efforts pour se débarrasser au plus vite du coronavirus. Plus de 10 000 tests par jour vont être réalisés dans les quartiers les plus touchés.
C'était Grégory Pless en Australie pour France Culture. Au Liban, la situation économique et sociale continue de se dégrader. Depuis le mois de septembre, la livre libanaise s'effondre, l'inflation explose et la crise sanitaire des derniers mois n'a évidemment rien arrangé. Quand les partis confessionnels sur place se renvoient la responsabilité de cette crise, les défenseurs des libertés s'inquiètent de la répression qui s'abat sur les opposants issus de la société civile. Ils sont nombreux, Aurélien Colli.
Une jeune femme critique du Hezbollah, le parti pro-iranien habitué aux coups de force, un internaute dénonçant dans une vidéo le bilan du président Michel Aoun, des militants à l'origine de coupures de route ou de rassemblements contre le pouvoir. Point commun entre eux, ils ont tous été arrêtés ces derniers jours.
La répression a pris une tournure plus systématique.
Ayman Mana, directeur exécutif de la fondation Samir Kassir pour la liberté d'expression.
Les autorités tentent de détourner le débat. Au lieu de prendre leurs responsabilités et de proposer de vraies solutions à la crise que traverse le pays, elle s'obstine à museler les voies libres.
Certains ont été libérés sous la pression de la rue, d'autres sont toujours détenus. Leurs avocats dénoncent une campagne d'intimidation. La fondation Samir Kassir, un détournement de la loi vu les motifs d'arrestation et de poursuite, diffamation, vandalisme, atteinte à la sûreté de l'État et même collaboration avec Israël, le voisin et ennemi juré.
Les mêmes articles du code pénal invoqués pour poursuivre les opposants aujourd'hui existent depuis des années. Le pouvoir manipule l'interprétation de la loi pour se protéger des critiques, tout en prétendant, face aux interpellations de la communauté internationale, ne faire que respecter les lois en vigueur. C'est une leçon simple tirée du petit manuel des dictatures de la région qui inspire et soutiennent les gros partis du système politique libanais.
Dans un Liban au bord de l'effondrement économique, les partis au pouvoir semblent donc avoir choisi la manière forte pour se maintenir, malgré leur perte de légitimité, malgré aussi le risque d'exacerber encore un peu plus la colère qui couve.
C'était Aurélien Colli.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Il reste quelques heures pour les procurations, si besoin, avant le second tour des municipales.
Oui, un deuxième tour qui aura lieu dimanche dans 15% des communes françaises et notamment à Quimper où trois candidats sont encore en lice. Entre la candidate de gauche et celle de la majorité, le maire sortant Agir se retrouve dans une position très inconfortable à Naïg Haute.
Le maire sortant, Ludovic Jolivet, membre du très Macron-compatible Parti Agir, est arrivé deuxième au premier tour derrière la gauche. Pour dimanche, il le reconnaît. Il espérait une fusion avec Annaïg Le Meur.
Logiquement, nous soutenons le même gouvernement.
La candidate LREM arrivait troisième.
En politique, il y a des logiques et puis il y a des logiques personnelles. Une grande partie de la majorité municipale aujourd'hui soutient l'action du gouvernement d'Édouard Philippe et on aurait pu imaginer que ça puisse se faire. Bon, effectivement, la présence au second tour d'Annaïg Le Meur ne peut que favoriser l'élection et ça peut paraître étonnant qu'un parti de la majorité fasse en sorte que éventuellement une opposition active au gouvernement soit à la tête de la mairie.
Car en refusant toute alliance, Annaïg Le Meur offre un boulevard à la gauche, mais la candidate LREM assume.
Alors déjà, moi j'avais annoncé que je ne fusionnerais pas. C'est vraiment...
Vous avez discuté quand même.
Ah oui, effectivement, je suis allée écoute aussi de mon équipe, donc je pense qu'il fallait aussi aller voir. Moi, je suis restée sur ma position, mais parce que je n'ai pas été convaincue non plus par nos discussions. Ce n'est pas le jeu des étiquettes nationales. Je pense que quand on fait une élection en local, il faut avoir de la confiance. Donc, c'était sur cette partie-là, sur sa notion de valeur et non pas sur une notion de poste.
De son côté, la candidate de gauche, Isabelle Assy, socialiste qui a présenté une liste d'union, n'a pas non plus cherché d'alliance. Elle aurait pu se tourner vers les deux listes citoyennes, mais table plutôt sur un report de voix assez logique.
Il y a eu une rencontre. Moi, ce n'était pas forcément l'idée d'une fusion, c'était l'idée d'une proposition de travail en commun en cas de victoire, parce qu'il y a des propositions qui sont tout à fait intéressantes. Donc, nous avons parlé beaucoup de projets. J'avais fait le rassemblement avant le premier tour avec des écologistes, avec les sensibilités de gauche, avec des citoyens non encartés. Ça fait un an qu'on travaille sur cette campagne municipale et je ne voulais pas sacrifier une équipe.
Au premier tour, seules 300 voix séparaient les deux candidats arrivés en tête et la participation était faible, 40%. Les différentes listes redoutent donc l'abstention et les voix qu'elles pourraient leur coûter.
C'était Anaïg Haute de France Bleu, Brésisel pour France Culture. Sanofi se prépare à annoncer plusieurs centaines de suppressions de postes. La direction entame aujourd'hui des réunions avec les représentants du personnel pour définir les modalités de ce plan de restructuration. Il doit durer 3 ans. Sur le front économique encore, il y a tout de même quelques bonnes nouvelles, comme celle d'Arjo Wiggins dans la Sarthe, qui devient canadien sous la coupe d'un groupe d'Autori. Après un an de grosses difficultés, la PAP papeterie française a en effet, contre toute attente, trouvé un repreneur, Annabelle Grelier.
Fermée, liquidée et ses 566 salariés licenciés, l'usine d'Arge Wiggins était vouée à être vendue à la découpe. Ni les collectivités locales, ni l'État n'avaient trouvé de repreneur, sinon une société de démolition écossaise. Mais c'était sans compter sur la détermination des citoyens qui, réunis en collectif et grâce aux réseaux sociaux, ont réussi à attirer l'intérêt des investisseurs. Nadia Mattia, présidente de l'association Action Citoyenne pour l'Intérêt Général.
On a eu énormément d'obstacles au début, parce que les élus nous disaient c'est foutu. Certains élus disaient aussi au niveau du conseil régional, bon, une usine comme ça, c'est plus rentable. Or, comment se fait-il, et c'est cette question qu'on pose, pourquoi est-ce qu'on en importe 400 000 tonnes par an? C'est se moquer du monde. Vous savez, on a eu des soutiens de plein de gens. D'abord, ils en ont assez d'être dans une société où il n'y a que l'argent qui compte. Ils en ont assez des élus qui ne les écoutent plus une fois qu'ils sont élus. Ils en avaient aussi assez qu'on casse toute l'industrie de ce pays, et notamment la filière papier.
L'association a déposé un projet industriel et écologique de production de papier recyclé, pas exactement le projet du nouveau repreneur canadien qu'elle a déjà rencontré et qu'elle ne désespère pas de convaincre. Soutenue par la Fédération CGT du papier, son secrétaire général Patrick Bourré s'interroge sur la responsabilité des industriels français.
Un manque de vision des industriels français sur les industries qui vont se développer et qui sont porteuses d'avenir. C'est ça la difficulté. C'est une industrie aujourd'hui qui est 100% recyclable, qui part d'un produit naturel qui s'appelle le bois, sur lequel les recherches et développements permettent de remplacer X produits plastiques. On sait faire plein de choses avec le papier qui aujourd'hui, personne se lance là-dedans. Ben, ça sera que des industriels étrangers. On va plus avoir une indépendance de ces produits-là. Parce que les plus gros producteurs papetiers, c'est des Américains, des Canadiens et bientôt des Chinois.
Le projet du Canadien Paper Mills Industries repose sur un investissement de 25 millions d'euros. Il prévoit la relance de la production de papier réalisée à partir de fibres textiles et de chanvre qui produiront des cartes à jouer ou du papier monnaie et peut-être du papier recyclé. En tout cas, pour faire entendre leur voix, une grande manifestation citoyenne est prévue vendredi prochain devant l'usine.
Et pour faire entendre la leur de voix, ils ont choisi de continuer la grève jusqu'à lundi. Les salariés de BFM TV et de RMC protestent toujours contre la suppression annoncée d'environ 500 postes, soit un tiers des effectifs. Après le soleil, les orages, surtout dans le sud-ouest ce vendredi. Comptez 22 degrés ce matin à Rennes et Bordeaux, 26 à Lille, Besançon et Lyon, 28 degrés dans la matinée à Paris et à Marseille. C'était la météo du jour, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, la question du jour: comment finance-t-on les futurs vaccins contre la Covid?